France Info.
France Info.
Il est des sociétés vivantes où les femmes règnent, où elles sont en grand nombre, très solidaires, inépuisables, qui plus est de taille extrêmement réduite, et où les hommes meurent juste après la reproduction. Ce sont les fourmis. Il est des personnes qui marient avec intelligence, science, philosophie, histoire, biologie, mythologie, polar et science-fiction. Ce sont les écrivains. Parfois, les deux se rencontrent. Et cela donne l'un des auteurs français les plus lus dans le monde. 20 millions d'exemplaires. 20 millions. Cet auteur est aujourd'hui en face de moi et dans sa dernière création romanesque, il suggère que l'homme va se fourminiser, autrement dit réduire de taille, se montrer plus résistant, devenir une société de femmes et se socialiser d'une manière inédite. Bonjour Bernard Werber.
Bonjour.
La série s'appelle Troisième Humanité chez Albin Michel. Le deuxième tome, Les Micro-Humains, est sorti en octobre dernier. Le prochain est prévu pour octobre prochain donc.
Oui.
Vous avez déjà le titre ?
Oui, depuis hier, il est sûr, c'est La Voix de la Terre, parce qu'en effet, l'un des personnages, c'est la Terre elle-même qui raconte comment les espèces prolifèrent sur sa surface. Et
déjà
comment
dans celui-là et dans le précédent, voilà. la Terre intervient, elle parle, elle existe.
Là, c'est vraiment le personnage principal, dans la mesure où on comprend qu'en fait, depuis le début, nous sommes une expérience de la Terre. C'est-à-dire la Terre, nous sommes ces petits parasites, et en même temps, elle s'amuse de nous voir, elle nous suit. Elle n'a pas de projet... elle a des projets sur nous, mais elle n'a pas les mêmes angoisses que nous. Nous, on a l'impression que les écolos sont les seuls qui ont le droit de parler de la Terre, mais non, en fait, la Terre, elle a d'autres soucis que l'écologie.
C'est un peu un retour aux sources. Dans ma petite parabole avec les fourmis, vous revenez, l'humain devient fourmi, en quelque sorte.
Oui, alors, il faut voir que l'humain, tout simplement, c'est une espèce qui a 7 millions d'années, au maximum, et que les fourmis, ça a 120 millions d'années. Donc, il est logique que nous fassions un peu le même cheminement qu'une espèce plus ancienne qui, depuis 120 millions d'années, construit des cités, fait l'agriculture, fait la guerre, et s'amuse sur la planète. Et en tout cas, elle mérite d'avoir survécu autant de temps.
Est-ce que vous pensez vraiment que l'homme se dirige vers ce que vous écrivez, ces micro-humains Qui sont ces micro-humains? Présentez-les-nous.
Alors, je réponds d'abord à la première question, c'est je crois que naturellement, quand il y a des problèmes, une espèce devient plus petite et plus féminine. Ça, on le voit, il y a eu 5 grandes extinctions sur la planète, et à chaque fois, on a vu des espèces réduire de taille et devenir plus féminines. Donc c'est juste une observation du passé, et je me dis si ça s'est passé en arrière, ça risque de passer de manière similaire en avant. Voilà, c'est juste une intuition d'observateur avec un peu de recul. Maintenant, votre deuxième question, c'était
Est-ce qu'on va devenir ça, nous? C'est-à-dire, alors ça, c'était, oui, c'est ce que vous voulez dire, mais qui sont ces micro-humains? Présentez-les-nous, du coup.
Alors, j'ai deux héros, ils s'appellent David et Aurore, qui vont mettre au point une espèce d'humain plus petit, qui font 17 cm, donc 10 fois plus petit. Alors, il faut savoir que ça a l'air complètement délirant, mais actuellement, on sait réduire la taille des espèces. Par exemple, vous savez, il y a ces chevaux qu'on arrive à faire des tout petits chevaux de 20 cm qu'on peut tenir dans les bras comme des petits chiens. On arrive à réduire toutes les espèces, en fait. Donc, c'est une manipulation génétique qu'on sait faire. Donc, par contre, on ne penserait pas à le faire sur l'homme. On voit pas l'intérêt de faire des petits hommes.
Ah ben si, parce que les deux héros. Dans votre idée, ça devient presque des objets. D'ailleurs, c'est la polémique au cœur du dernier roman. Voilà. Sont-ils des objets? Sont-ils des hommes? Quel est leur statut? Alors, on a la même question dans l'actualité avec les animaux aujourd'hui.
Exactement.
Question qui se pose. Et ce sont des petits personnages qui peuvent faire plein de choses que l'homme ne peut pas faire. Et qui vont se révolter.
Alors déjà, ils sont plus précis dans leurs gestes, parce qu'ils ont des toutes petites mains, puis ils peuvent s'infiltrer, par exemple, pour aller sauver les mineurs chiliens qui étaient coincés, là où l'homme ne peut pas passer, le micro-humain peut passer. Et l'intérêt, en fait, c'est peut-être de faire une espèce qui soit plus résistante à la pollution, aux radiations, à tous les problèmes du futur que nous. Si on regarde l'évolution, par exemple... les reptiles, on sait que les dinosaures sont transformés en lézards, les mammouths sont transformés en éléphants, les tigres sont transformés en chats, les loups sont transformés en chihuahuas. L'évolution va vers un rapetissement des espèces. Il semble que ça soit le choix que fait Mère Nature. Quand une espèce lui pose des problèmes, elle la réduit de taille. Elle la fait taire en la réduisant. Nous réduisons nous-mêmes, peut-être que nous anticipons les désirs de la planète.
Bernard Werber, vous flirtez toujours avec la spiritualité, la réincarnation, les extraterrestres. Est-ce qu'il y a une voie entre l'idée d'un monde officiel, où tout est expliqué, et puis celle d'un monde irrationnel, où on passe pour un fou quand on en parle?
Alors, j'essaie d'être le plus rationnel possible, j'essaie de me baser sur la science et de ne pas trop dériver, parce que si je me lance dans un délire, tout est autorisé, donc à ce moment-là, il n'y a plus de référence. Quand je parle des micro-humains, c'est un futur possible. Quand je parle des expériences de troisième humanité, ce sont toutes des expériences qu'on peut faire ou qui vont se produire. Je suis un ancien journaliste scientifique et je crois que plus c'est vrai, plus c'est magique. Les fourmis, à l'époque, quand j'ai écrit Les Fourmis, je me suis dit, je ne vais pas faire des faits magiques, je vais être juste dans l'inscription du réel. Je crois qu'il existe un territoire merveilleux qui est pas de la science-fiction, qui n'est pas du fantastique, que j'appelle la philosophie-fiction, qui est juste une manière de dire « et si ?» et on fait un petit dérivé dans le futur de choses qui existent déjà actuellement.
Donc on se faufile entre le rationnel et l'irrationnel en
voilà,
quelque sorte.
Voilà, ouais. Mais en restant crédible et vraisemblable, parce que c'est comme ça qu'on touche les gens et qu'on a l'émotion.
Et vous cherchez toujours à avoir le regard possible d'autre chose. D'ailleurs, votre film Nos Amis les Terriens se place par exemple dans le regard d'extraterrestres sur nous, les Terriens. Un extrait.
Les Terriens, ne sachant pas communiquer par télépathie, disposent de plusieurs systèmes de communication primitifs. Tout d'abord, la communication par les odeurs. Ils émettent des parfums par les touffes de poils situées sous leurs aisselles, ainsi qu'autour de leur sexe. Lorsque les odeurs de leurs proches ne leur conviennent pas, ils allument des tubes d'herbe sèche dont ils soufflent violemment la fumée pour repousser les messages olfactifs inintéressants. Mais de tous les modes de communication, le plus nuancé et le plus mélodieux est le son. Celui-ci sort par l'orifice buccal qui, décidément, est multifonction. Les Terriens adorent piailler du matin jusqu'au soir.
Voilà, on piaille, on va continuer à piailler, Bernard Werber, extrait de ce film qui se finit sur cette phrase, votre film, « La rencontre avec les extraterrestres sera inévitable ».
Je l'espère.
Enfin, ce sont eux qui le disent. Eux, oui. Ils disent la rencontre avec les Terriens sera inévitable.
Voilà. La pire chose qui puisse arriver, c'est qu'il n'y ait pas d'extraterrestres et que nous soyons seuls sur cette planète qui elle-même soit le seul endroit où il y ait de la vie.
Ah, vous doutez, vous ne savez pas encore, vous hésitez.
Ah, c'est pas que je ne sais pas, il y a deux choix.
Moi, j'étais persuadé que vous croyez aux extraterrestres.
Non, il y a que deux choix et les deux sont terrifiants. Le premier, c'est qu'il y a des extraterrestres et le deuxième, c'est qu'il n'y en ait pas. Mais des deux, celui qui me fait le plus peur, c'est qu'il n'y en ait pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait un film d'espoir, pourvu qu'il y en ait.
Vous avez des détracteurs qui crient à l'arnaque parce que vos théories ne seraient pas étayées, vous avez déjà répondu. Vous avez des admirateurs qui crient
la science-fiction,
au génie.
Romancier.
Oui, qui crient au génie et qui vous comparent à Jules Verne. Vous-même, comment vous voyez?
Je me vois comme un artisan qui essaie de faire la plus jolie histoire qui fasse que les gens oublient leur quotidien et rêvent du futur. Mais je n'ai aucune prétention d'être un scientifique, donc évidemment, il n'y a pas de... Je n'ai rien à prouver. Par contre, l'idée, c'est d'ouvrir des horizons. Je crois que le travail d'un bon écrivain est de faire qu'à la fin du livre, le lecteur se pose de nouvelles questions, et a un sourire, et a envie lui-même d'entreprendre des choses pour ne plus être passif, mais rentrer dans l'histoire de son espèce.
Est-ce que les hommes comprendront un jour les âmes ?
Ah, c'est le clip avec Morane, je l'espère. En tout cas, c'est sûr que le prochain siècle, non seulement sera spirituel, mais sera celui où on commencera à parler des âmes, et non plus juste des corps.
Pour les âmes, pour les hommes, effectivement, la chanson de Morane que vous m'avez demandé, dont vous avez réalisé le clip vidéo.
Enfant, je pense à vous avec un goût amer. Mon sang a pris des coups, je suis tout à l'envers.
Pour les âmes, pour les hommes, la chanson de Morane. Le clip, vous l'avez réalisé comment ? Il y a beaucoup d'images de synthèse.
Oui, beaucoup d'images de synthèse. C'était l'idée de faire des enfants qui courent vers la lumière. Morane est un être fabuleux qui dégage une énergie, une chaleur extraordinaire. Et quand je l'ai filmé, je me suis aperçu que c'est encore plus fort. C'est-à-dire, dès le moment où on regarde dans l'objectif, on sent l'énergie qu'elle dégage. Vous savez, les gens... Il y a tellement de chanteurs, ceux qui arrivent à sortir du lot, c'est qu'ils ont un petit plus, et c'est ce supplément d'âme dont bénéficie Morane.
Bernard Werber, en votre compagnie tout au long de cette demi-heure.